RFI, grand reportage.
Le 10 mars dernier, le navire de l'association SOS Méditerranée quittait le port de Marseille pour sa 11e mission. L'Ocean Viking porte secours à ces embarcations en détresse qui tentent une traversée clandestine de Libye vers l'Europe. L'an dernier, au moins 1277 personnes, soit plus de 3 par jour, sont mortes ou ont été portées disparues en Méditerranée. Une tragédie honteuse selon la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui en impute la responsabilité aux États européens qui ont retiré leurs bateaux de la zone et entravé, dit-elle, l'action des ONG. Actuellement, 4 organisations tentent de maintenir des opérations en Méditerranée centrale. RFI a pu accompagner SOS Méditerranée sur cette dernière mission. Sur la route migratoire la plus meurtrière du monde, un grand reportage de Guilhem Deltey.
Lentement, l'Ocean Viking quitte le port de Marseille. En cette fin de journée, la mer est plate, la navigation calme. À bord, les membres de l'équipage affichent leur sourire. Le départ marque le début d'une mission jugée indispensable par Claire, marin sauveteuse.
C'est absolument insupportable d'imaginer des gens mourir alors qu'on aurait les capacités de les sauver.
Le bateau de l'ONG allemande Sea-Watch vient d'arriver en Italie avec 363 personnes secourues en mer à bord. Plus aucune organisation de secours n'est alors présente en Méditerranée centrale et cela met les migrants qui tentent cette traversée en danger, déplore Léo, venu du Royaume-Uni.
Dans une situation idéale, nous n'aurions pas à être là à faire ça. Si les États remplissaient leur responsabilité à la fois de porter secours et de coordonner les secours, il n'y aurait pas ce vide que les ONG ont eu à combler.
Après 24 heures de navigation, l'Ocean Viking s'arrête au large de la Sardaigne. L'île italienne lui offre un abri pour mener les entraînements. Les 3 bateaux d'intervention sont mis à l'eau et les 12 membres de l'équipe de recherche et de sauvetage répètent les protocoles d'opération. Ils font des manœuvres d'approche, s'exercent à la distribution des gilets de sauvetage et aux évacuations. 2 jours d'entraînement que Claire juge indispensable malgré 4 ans d'expérience en opération de recherche et de secours.
On a tous pris possession de nos bateaux, de notre équipe, au sein de nos petits bateaux. On a appris aussi le déroulé global de l'opération avec la coordination entre les 3 différents bateaux sur l'eau et le pont. On a répété la partition, quoi. C'est important parce que quand on est en zone d'opération, il y a un facteur stress qui n'est pas négligeable. Rien que l'image de voir ces bateaux qui sont absolument pas faits pour être sur l'eau, remplis de gens, qui sont la plupart du temps dans un état physique assez lamentable. Tout ça fait qu'on arrive sur des scènes qui sont en soi stressantes. Si on n'a pas une base solide sur laquelle s'appuyer en se disant les réflexes sont là, la communication est efficace, ça crée un stress supplémentaire.
L'équipage s'entraîne aussi à prendre en charge les urgences médicales qu'il pourrait rencontrer. Chacun est formé aux gestes de premier secours. En cette période de pandémie, un nouveau protocole sanitaire lié au coronavirus est aussi appliqué. Tenue intégrale de protection sur le pont et désinfection avant de rentrer dans la partie habitation. Le risque lié au coronavirus est à prendre au sérieux, souligne Valeria, la responsable médicale.
Dans les 3 derniers débarquements de bateaux de secours, que ce soit l'Ocean Viking, Aitamari ou Sea-Watch, il y avait des cas positifs de Covid parmi les survivants. Nous savons qu'en Libye, particulièrement pour les personnes en déplacement, donc les personnes que nous allons rencontrer en mer, la situation est critique.
Un peu plus de 4 jours après son départ de Marseille, l'Ocean Viking arrive dans la zone de recherche et de sauvetage libyenne. Celle-ci se situe au large des côtes du pays, mais en dehors de ses eaux territoriales. Beaucoup d'embarcations confrontées aux conditions de navigation en haute mer s'y retrouvent en difficulté. Or, dans cette zone, les opérations de secours sont devenues compliquées, déplore Nicolas Stalla, le coordinateur des opérations de recherche et de sauvetage de cette mission.
Quand j'ai commencé en 2016, il n'y avait pas de zone de recherche et de sauvetage libyenne établie. Et de facto, c'était le centre maritime de recherche et de secours italien qui coordonnait toutes les opérations de secours sur l'ensemble de la Méditerranée centrale. Et cela a changé en 2018. À ce moment-là, cet élément si vital des opérations de recherche et de sauvetage qu'est la coordination a soudainement cessé, car le centre libyen de secours n'a jamais été capable de fournir cette coordination qui était si efficace avec le centre maritime de coordination des secours de Rome. Et depuis, c'est comme travailler à l'aveugle.
Les autorités maritimes libyennes relayent rarement les alertes qu'elles reçoivent. Dans sa zone d'opération, l'Ocean Viking compte surtout sur les informations que peuvent lui transmettre d'autres ONG qui travaillent au sol ou dans les airs et sur ses propres activités de recherche. Du lever au coucher de soleil, les marins sauveteurs se relayent sur le pont supérieur pour scruter l'horizon. Dragoche est l'un d'entre eux.
Tout ce que nous voyons sur la mer, nous devons le rapporter à l'officier présent, au coordinateur ou à quiconque est ici. Nous patrouillons dans une région où il y a beaucoup de pêche. Donc nous devons signaler aussi les bateaux de pêche que nous voyons, mais aussi les débris, si nous sommes à la recherche d'un bateau dont nous savons qu'il a disparu quelque part. En somme, nous devons savoir plus que quiconque sur ce bateau, plus que l'officier de quart, plus que n'importe qui ce qui se passe dehors.
Des bouées oranges tout à l'heure, c'est à ressembler à des parbattages de bateaux.
Après 3 jours de patrouille, l'Ocean Viking reçoit une alerte de l'ONG Alarmphone pour une possible embarcation en détresse. Mais alors qu'il recherche le bateau qui lui a été signalé, il reçoit un appel à la radio. Ce sont des gardes-côtes libyens qui patrouillent dans le coin et qui lui demandent de prendre en charge les passagers d'un petit bateau en fibre de verre parmi lesquels se trouvent des malades. Deux bateaux d'intervention sont mis à l'eau et vont à la rencontre de l'embarcation. Jérémy, le chef de l'équipe des marins sauveteurs, se présente, rassure tout le monde mais demande de la patience. Il faut se coordonner avec les gardes-côtes libyens. Mais le premier contact est déjà salué par les passagers du petit bateau. Quelques dizaines de minutes plus tard, les passagers sont ramenés à bord de l'Ocean Viking. 10 Libyens, tous berbères, 2 familles avec 4 enfants et 2 célibataires.
Cela fait 6 mois qu'on prépare le projet, mais à chaque fois on reportait. C'est la première fois qu'on prend la mer.
On allait sur la côte et on réalisait que la mer n'était pas bonne. Mais hier, la mer était bonne, il n'y avait pas de vagues. On a navigué 6 heures de nuit.
Mais dans ce sauvetage, un fait interroge. L'un des hommes installé au poste de pilotage est reparti avec les gardes-côtes libyens. Il était en fait l'un des leurs, assure à Aline, l'un des rescapés.
Le pilote travaille pour le gouvernement, il est garde-côte. Il s'est approché de nous en pleine mer avec un pistolet et nous a donné un choix. Il y a cette ONG à proximité. Nous allons vous emmener jusqu'à eux et nous repartons avec le bateau. Nous vous ramenons en Libye. Ils veulent probablement le vendre. Ils peuvent en tirer 40 ou 50 000 dinars. Ce n'était clairement pas la première fois.
Selon les rescapés, le bateau pouvait se revendre 7 500 à 9 000 euros. 2 jours plus tard, de manière inhabituelle, un agent de la sécurité côtière libyenne reprend contact avec l'Ocean Viking. Il tient à préciser avoir agi ainsi par motivation humanitaire, dit-il, en raison de la présence de malades à bord. Mais son intervention ne lève pas tous les doutes. Dans les autres embarcations interceptées, les personnes malades sont-elles ramenées en Libye ? Après une nouvelle alerte d'alarme faune, un bateau pneumatique surchargé est repéré à 34 000 nautiques des côtes. Une deuxième intervention est déclenchée. En arrivant à sa hauteur, les équipes font un premier état des lieux.
La situation est calme. Il y a des femmes au milieu. Je ne vois pas d'enfants et il n'y a personne allongé au sol. Il y a des enfants à bord.
Les passagers reçoivent dans un premier temps des gilets de sauvetage, puis l'évacuation commence.
Que Dieu vous protège.
Il faut 7 navettes pour ramener les 106 passagers à bord. Un flotteur du bateau était percé et commençait à s'affaisser. Il y avait effectivement urgence à agir, estime Jérémy, le chef de l'équipe de recherche et de secours.
L'embarcation était typiquement en détresse. De toute façon, il n'est pas fait pour naviguer. Il y a 100 personnes dessus. La météo, il y avait des creux de 2-3 mètres à la fin. Pour moi, on a eu une chance inouïe de repérer cette embarcation. Parce qu'à partir du moment où on a eu les coordonnées de l'appel de détresse, on était sur zone en moins d'une demi-heure. Mais à quelques heures près, ça allait vraiment être dramatique.
Les positions de tous les bateaux se trouvent facilement sur Internet et à bord de l'embarcation, la présence de l'Ocean Viking dans cette zone était connue, explique Mukhtar, l'un des rescapés.
Tout le monde avait trois choses en tête. Soit l'Ocean Viking le chaud, soit la Libye, soit la mort.
En Europe, ces espoirs de sauvetage placés dans les ONG de recherche et de secours alimentent les accusations qui leur sont faites de favoriser l'immigration clandestine. Des critiques vivement rejetées par les membres de l'équipage, comme Claire.
Ouais, c'est hallucinant de dire des trucs comme ça, enfin, c'est complètement fou. C'est... Bon, après j'imagine qu'il faut bien trouver des raisons pour nous haïr, mais là franchement c'est ouf quoi. Même quand on n'est pas là, les gens ils partent, sauf que quand on n'est pas là, les gens ils meurent quoi.
Début avril, le nombre de départs enregistrés a augmenté alors qu'aucun bateau humanitaire n'était présent dans la zone. À l'arrivée sur le bateau, les personnes secourues reçoivent un petit sac contenant de quoi se changer, des vêtements secs, une serviette et une couverture. Puis elles sont enregistrées. Vient alors le temps du repos. Les deux embarcations secourues sont parties de nuit. Tassées dedans, les rescapés n'ont pas dormi et ont fait face à des doutes, des peurs. À l'arrivée sur l'Ocean Viking, la fatigue physique et émotionnelle prend le dessus. Il faut attendre les jours suivants pour qu'une routine se mette en place. Farshad est le chef de l'équipe de soins.
Cela commence avec le petit déjeuner, un petit déjeuner très simple, suffisamment nutritif pour qu'il reste en bonne santé. Et puis en fonction des conditions météorologiques, nous leur proposons différentes activités. En général, les gens sont autonomes quand ils se sentent à l'aise. Ils mettent en place des activités communautaires. Mais nous leur fournissons des instruments de musique, des livres, des jeux de société et des choses de base qui peuvent les aider à occuper la journée.
Au sol, devant l'abri des hommes, trois damiers et un plateau de backgammon sont peints sur le sol. Des palets de bois font office de pions. Les dames font recette. Il faut parfois patienter pour pouvoir jouer à son tour. Et les spectateurs deviennent un mélange d'entraîneurs et d'arbitres.
C'est bon.
En cette fin d'hiver, la mer est agitée. Les vents se renforcent petit à petit. Les vagues grossissent. Le mal de mer gagne bon nombre des nouveaux passagers du bateau. Mais pas de quoi gâcher pour Souleymane Konaté le soulagement d'avoir quitté la Libye.
Je me sens libre, je me sens très libre même. Alors là, je dors comme je veux maintenant. Il y avait quelque chose qui était déposé sur ma tête. Maintenant, on doit se décharger. Comme j'étais malade, maintenant tu es guéri, c'est ça.
Les conditions de vie sont sommaires. Un abri pour les hommes, un autre pour les femmes, où les uns et les autres dorment à même le sol avec une couverture pour se réchauffer. Les repas sont des portions de survie, du thé et des barres de céréales pour le petit déjeuner. Les douches ne sont pas ouvertes tous les jours, mais les rescapés ne se plaignent pas.
Tu sais, les chaussures, tu les laisses devant les toilettes, comme ça tout le monde peut les utiliser.
C'est pas pour marcher avec
eux. Ça, on ne cherche pas les téléphones.
Sur le pont, les membres de l'équipage se relayent 24 heures sur 24 pour faire respecter les consignes de vie sur le bateau, répondre aux besoins et interrogations dans la mesure du possible, mais c'est aussi un moment de partage privilégié, juge Léo, le marin sauveteur britannique.
Ce que je trouve très beau, c'est que le temps que les gens passent sur ce bateau, et espérons que ce soit le moins de temps possible, peut être comme un îlot de décompression. Les gens à qui nous portons secours ont passé des moments horribles en Libye. Et parfois, c'est vraiment le moment où les gens réalisent qu'ils sont en sécurité. En sécurité vis-à-vis de la mer et vis-à-vis de tout ce qui leur est arrivé en Libye. Et pour la première fois depuis des années, ils peuvent vraiment se détendre. Et je trouve que c'est un privilège de passer du temps avec les gens dans ce moment-là.
Salut, hop, parfait,
lève
les mains, lève un peu ton bonnet, parfait.
Tous les matins, avant le petit déjeuner, l'équipage veille à la désinfection des mains. C'est l'occasion aussi de donner un nouveau masque et de prendre les températures de chacun. Mesures sanitaires imposées par le coronavirus. Au lendemain du deuxième sauvetage, de premiers cas de Covid sont détectés parmi les rescapés. Toutes les personnes secourues sont alors testées. L'éventualité était anticipée et un plan de limitation des risques est activé. Mais son efficacité se heurte aux limites imposées par l'environnement, souligne Valéria, la chef de l'équipe médicale.
Vous n'avez pas le Covid, c'est bon.
Je dois dire que nous étions assez préparés. Ce n'est pas venu de nulle part, on avait plusieurs plans d'urgence établis. Mais tant que nous sommes à bord, il est impossible d'empêcher la contamination. On peut seulement la limiter. Et pour maximiser cette réduction des risques, on a structuré le pont en différentes sections. Ceux qui sont positifs vivent dans une partie, et les autres, ceux qui pour l'instant sont testés négatifs, vivent dans une autre partie.
La situation sanitaire accentue l'urgence du débarquement. En droit maritime, les personnes secourues en mer doivent être accompagnées jusqu'à un lieu sûr qui doit être assigné par les autorités. Des demandes ont été formulées tous les jours dès le premier sauvetage, mais l'attribution d'un port de débarquement se fait attendre. Finalement, après le deuxième sauvetage, le bateau décide de faire route vers le nord. Nicolas Stalla est le coordinateur des opérations de cette mission.
C'est une question de disponibilité de lieux sûrs. Il y a une déclaration claire de la Commission européenne et du HCR de l'ONU qui dit que la Libye ne peut pas être considérée comme un lieu sûr pour débarquer les personnes secourues en mer. Donc les pays les plus proches qui répondent à cette définition sont Malte et l'Italie. C'est pour ça que nous leur avons envoyé une demande et que nous avons commencé à faire route afin de réduire le temps en mer.
L'incertitude a été levée 2 jours et demi après la deuxième opération de secours, 4 jours et demi après la première.
Nous venons juste d'apprendre que, par les autorités, que nous allons débarquer, nous allons aller au port d'Augusta en Italie.
L'annonce est faite juste avant le petit déjeuner en début de journée et la joie est immédiate. Moussa affiche alors avec bonheur un livre qu'il a pris dans la bibliothèque de l'Ocean Viking. Nouvelle vie et autres récits de Pierre Bordage. C'est le titre qui l'a attiré.
Depuis ma rentrée dans ce bateau, je ne fais que lire ce livre. Je sais qu'une nouvelle vie commence. La vie de l'enfer est terminée. On a beaucoup vécu dans cet enfer. 3 fois emprisonné. Je suis dans l'euphorie. Je ne sais pas quoi faire. Je suis dépassé, vraiment.
Quelques minutes plus tard, sur le pont, un groupe d'hommes prend une petite enceinte et passe de la musique. Get up, stand up de Bob Marley. Lève-toi et bats-toi pour tes droits. N'abandonne pas le combat, reprend le refrain et le groupe d'hommes avec lui. Abraham Dolan, jeune homme originaire du Liberia, a rejoint cette petite troupe.
Je suis vraiment, vraiment, vraiment sur un petit nuage là. C'est une bénédiction. C'est un rêve qui devient réalité. J'ai toujours voulu venir en Europe depuis le jour de ma naissance. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais maintenant, je suis simplement heureux.
Pour l'heure, seul l'instant présent compte. Le soulagement est accentué par l'idée qu'à terre, la nouvelle pourra être partagée avec leurs proches. Depuis le départ de Libye, ils n'ont plus eu ni réseau téléphonique, ni accès à Internet. Plusieurs jours passés sans pouvoir rassurer leurs proches. Et pour Moussa, le bonheur ne peut être entier pour le moment.
Je suis aussi pressé de parler avec ma maman. Elle est vraiment inquiète sur moi. Je ne peux pas être dans la joie et que ma maman ne fait que pleurer.
Depuis le début de la matinée, les côtes italiennes se dessinent à l'horizon. Petit à petit, elles se rapprochent. Un premier contact avec l'Europe plein de promesses, juge Siré, une jeune Guinéenne.
Je suis émue, très contente. Vraiment, ça fait du bien. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas, mais je crois que c'est du bonheur quand même.
À l'arrivée, des officiels italiens montent alors à bord. Tous les passagers sont soumis à nouveau à un test de dépistage du coronavirus. Puis il leur faut attendre. Le ciel est gris, les températures fraîches. Les uns et les autres tentent de se réchauffer et de se rassurer face à ce saut dans l'inconnu qui les attend.
Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Donc on donne tout à Dieu. Donc on se confie à Dieu. Donc on ne sait pas ce qui nous attend maintenant.
Vous allez sortir, d'accord ? Vous allez marcher toujours dans l'ordre, vous restez toujours dans l'ordre dans les des numéros, d'accord ? Quand je vous dis, vous allez sortir, toujours dans l'ordre.
C'est finalement en fin de journée que les autorités italiennes procèdent au débarquement. Les 116 personnes rescapées s'en vont en file indienne, escortées par 2 camionnettes de police et disparaissent derrière une décharge de ferraille située au bout du quai. Les larges sourires et les chants du matin ont disparu, les visages sont fermés, le rêve européen se retrouve confronté à la réalité.
Sur la route migratoire la plus meurtrière du monde, un grand reportage de Guilhem Delteil, réalisation Eva Piedel.
Au revoir.
Numéro. Toujours dans la main, vous gardez dans la main.
D'accord.
Radio France Internationale.
Au revoir, ma belle. Platine. Oh.
Allez.
Au revoir.
Allez, au revoir.
du courage. Au revoir.
Au revoir.